Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie. Vous écoutez L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. Au sommaire, l'info du jour, l'établissement français du sang a besoin de vous. Un reportage aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine qui accueille une exposition sur les exilés espagnols de 1939. De la musique dans une nouveauté, une interview pour annoncer une projection autour de l'histoire de Gabrielle Garcia, fille de républicain espagnol exilé en Bretagne. Et puis recommandation, une rencontre à Bru pour parler immigration. Bienvenue dans L'Arène. Comme chaque jour, on va commencer l'émission d'information locale avec l'info du jour. Une que je choisis parmi d'autres dans la presse locale. Ce sont aussi parfois des informations qu'on m'envoie directement. Là, c'est le cas car aujourd'hui, on relaie l'appel de l'établissement français du sang et des 160 associations pour le don de sang bénévole en Bretagne. Alors, ces dernières semaines, les maisons du don et les collectes de sang bretonnes ont connu une moindre fréquentation et la diminution des réserves en sang à l'approche des vacances scolaires et des ponts du mois de mai, eh bien, inquiète la structure. Pourtant, les besoins des patients, eux, ne diminuent pas. On rappelle qu'un don de sang, ça ne dure que 10 minutes. On peut vérifier en ligne qu'on coche les cases pour pouvoir être donneur. Et le sang collecté, il couvre ensuite différents besoins pour les patients confrontés à des accidents, des maladies chroniques ou génétiques, des cancers ou encore des hémorragies. Alors, peut-être qu'on pourrait, puis je me mets dedans, profiter du supplément de temps libre au mois de mai, pour se rendre dans l'une des 6 maisons du don en Bretagne ou bien rejoindre une collecte mobile. Le détail est à retrouver en ligne sur dondesang.efs.sante.fr. Il reste près de 8000 rendez-vous disponibles pour un don de sang dans les 3 semaines à venir. Précision du directeur de la collecte à l'EFS Bretagne, Julien Robinet. Allez, après cette info du jour, on passe à un reportage. Et direction les archives départementales d'Ille-et-Vilaine qui accueillent jusqu'au 25 avril l'expo Stratégie de l'effacement à travers 10 lieux, 10 récits familiaux et une sélection d'archives. La photographe Lydie Turcot rappelle les difficiles conditions d'exil des familles espagnoles hébergées sur le territoire français. Parmi ces lieux, il y a le camp de Verdun à Saint-Jacques-de-la-Lande où les arrière-grands-parents de l'artiste sont passés. L'entrée est libre et gratuite pour découvrir cette exposition. Pour plus d'infos, il y a le site des archives et je précise tout de suite qu'après ce reportage et une pause musicale, on retrouvera Gabrielle Garcia en studio, une fille de républicain espagnol exilé en Bretagne.
Bon, la plupart de ces lieux-là n'existent plus aujourd'hui ou alors ont été vraiment recréés. On voit une ancienne prison qui est devenue la cité de la tapisserie. On voit l'abbaye de Noirlac qui à l'époque était offrait des conditions très mauvaises, mais qui aujourd'hui est un établissement qui propose des événements culturels. Et l'auteur qui explique pourquoi elle a fait cette exposition et comment elle l'a fait, hein. Et ce que ça signifie également pour elle, hein, évidemment, hein, d'avoir réalisé ce travail.
Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar.
Alors, nous sommes ici aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Florent Lenègre, directeur des archives et du patrimoine du département d'Ille-et-Vilaine. Les archives départementales, c'est toute la mémoire documentaire du département, toute la mémoire du département depuis 1040 jusqu'à nos jours, avec évidemment plusieurs types de documents, papier, parchemin, aujourd'hui archives électroniques, donc un vaste spectre, et aujourd'hui une cinquantaine de kilomètres linéaires de documents conservés, toute période, voilà, comme on le dit, et notamment des documents administratifs, documents photographiques, des archives publiques, des archives privées, voilà vraiment un très large ensemble pour pouvoir écrire l'histoire de notre département. Alors ici on est dans le hall des archives départementales et on présente régulièrement dans ces espaces qui sont dédiés au public, que ce soit le hall ou la salle d'exposition, des expositions historiques qui reviennent sur des thématiques ou des événements qui ont marqué notre territoire. Alors là, on présente depuis le 15 mars dernier une exposition sur l'arrivée des réfugiés républicains espagnols en France à la fin du mois de janvier 1939. On a plusieurs centaines de milliers de réfugiés républicains espagnols qui passent la frontière et qui arrivent en France et qui sont reçus dans un certain nombre, dans 70 départements en France, après avoir été dans les camps qui se trouvent dans le sud-ouest de la France. On connaît le camp de Rivesaltes, par exemple, qui a accueilli et le camp d'Argelès, qui ont accueilli un grand nombre de ces réfugiés républicains. Ce qu'on sait moins, effectivement, c'est qu'à cette époque-là, les familles ont été séparées, femmes et enfants d'un côté et les hommes d'un autre, et que souvent ces familles mettent plusieurs mois, voire parfois plusieurs années pour se retrouver. Et donc là, cette exposition-là revient sur l'accueil de ces réfugiés républicains espagnols à travers 10 lieux dans toute la France qui ont accueilli ces réfugiés. Et donc cette exposition montre les conditions dans lesquelles ils ont été accueillis. C'était l'hiver, on était en janvier, dans des lieux qui n'étaient pas forcément très adaptés, pas forcément pourvus en matériel pour les recevoir, et dans des conditions sanitaires qui sont décrites par les documents d'époque et qui effectivement sont très mauvaises.
On lit à l'entrée de l'expo, le gouvernement français avec à sa tête le radical Édouard Daladier propose un asile récalcitrant, voire même hostile aux réfugiés. Guidé par une logique de police, il prend la décision d'ériger sur les plages du Roussillon les premiers camps français d'internement hors temps de guerre. Les femmes et les enfants bénéficient d'un accueil qui pourrait être qualifié de plus humanitaire. Elles sont toutefois séparées des hommes, de leur famille, dès le passage en France et transférées vers plus de 70 départements dans des centres d'hébergement, le pendant civil des camps d'internement. Font office de centre des maisons individuelles, des anciennes prisons, théâtres désaffectés, écoles, salles des fêtes, également des usines désaffectées, hôtels et colonies de vacances, voire même des édifices religieux.
L'esprit de l'exposition pour chaque lieu, c'est de présenter une photo du lieu aujourd'hui, une photo en couleur, une photo aujourd'hui de la famille qui a été accueillie dans ces lieux, un témoignage qui est décrit et des documents d'époque pour que tout forme un ensemble qui permette d'avoir une idée de ce que, d'une part ce que ça a pu être à l'époque et après la façon dont les personnes qui l'ont vécu ou qui sont des descendants de ces personnes qui ont vécu ces événements, le décrivent aujourd'hui.
Comment est-ce que cette exposition elle est arrivée jusqu'à vous? Je crois que ce travail avait déjà été exposé ailleurs par Lydie Turco, qui en est à l'origine.
Voilà, c'est une exposition qui a été créée par Lydie Turco, qui est photographe et réalisatrice, et qui elle-même est descendante de réfugiés républicains espagnols. Elle a fait un travail photographique, un travail de recherche qu'elle a mené avec Maëlle Maugendre, qui est historienne et qui a travaillé sur les femmes dans cet exil des républicains espagnols. Et effectivement, c'est une exposition qui est arrivée ici pour une raison particulière, c'est que les arrière-grands-parents de Lydie Turco ont été, lorsqu'ils sont passés la frontière, ont été ensuite reçus ici en Ille-et-Vilaine, et donc ont séjourné dans le camp de Verdun, qui est un des camps qui a accueilli des réfugiés républicains espagnols en 1939. Voilà ce qui c'était symbolique de recevoir cette exposition ici. Et on a effectivement sur le panneau qu'on voit là juste derrière la photo de l'endroit où était le camp de Verdun, qu'on ne voit plus aujourd'hui, puisque là sur la photo on voit un bâtiment en construction qui sans doute a été terminé depuis. Et ce qui fait que toute trace de ce camp aujourd'hui a disparu. Et on voit à côté donc de cette photo actuelle une photo de famille de Lydie Turco pour illustrer le fait que. Ce lieu a marqué sa mémoire familiale et cette arrivée des réfugiés républicains espagnols en Ille-et-Vilaine a également marqué le département.
Extrait du récit de la famille de Luis Rabanal Díez et Maria Teresa Torre Garcia, les arrière-grands-parents de la photographe Lydie Turco. Maria Teresa et Maria, sa fille, furent envoyées au foyer Verdun à Rennes, puis au camp militaire de Verdun, situé à cheval entre Rennes et Saint-Jacques-de-la-Lande. Les conditions étaient terribles. Il faisait très froid, il y avait peu de nourriture, et Teresa se réveillait avec un mort à côté d'elle régulièrement, notamment parmi les enfants. La population venait les regarder comme des bêtes. Il n'y avait que de la paillasse au sol, et lorsque les Allemands prirent le contrôle du camp, ils furent réduits à manger les épluchures de pommes de terre laissées par les militaires.
En 1939, c'était un camp. Ensuite, ce camp-là a accueilli des réfugiés républicains espagnols. Il a servi ensuite de camp de prisonniers. Il a ensuite été désaffecté et rasé. Aujourd'hui, bon, ben, on voit, hein, j'ai pas la date précise de la photo, mais lorsque la photo a été prise, c'est un bâtiment, qui, sans doute des logements qui sont en construction. Et alors, je ne suis pas repassé depuis, mais je pense que ce bâtiment a dû être terminé depuis.
Il faut peut-être replacer cette exposition dans une programmation plus large qui est pensée autour de la Seconde Guerre mondiale en cours aux archives.
Alors, elle fait partie effectivement d'un cycle que l'on a entamé le 15 mars dernier avec l'ouverture de cette exposition-là. Ce cycle, on l'a baptisé « Mémoire de la Seconde Guerre mondiale, de la Retirada à la Libération ». Il s'agit de faire les deux extrémités de cet événement, hein, qui a été la Seconde Guerre mondiale, événement tragique pour le département et pour ces populations qui se sont retrouvées exilées. Et donc on commence avec janvier 1939, hein, c'est arrivé des réfugiés républicains espagnols, dans un contexte, comme on l'a dit, très difficile. Et l'idée, c'est ensuite d'avoir une programmation en deux temps, donc mars-avril plutôt sur les réfugiés républicains espagnols, et ensuite mai-juin, et jusqu'au mois de septembre, jusqu'à la fin du mois d'août, hein, pour la partie dédiée au 80e anniversaire de la Libération. Le lien entre les deux est fait par le fait que de nombreux réfugiés républicains espagnols sont entrés dans la résistance et notamment à Rennes sont toujours commémorés aujourd'hui. Donc, dans le cadre de ce cycle, en deux parties, nous avons commencé par la présentation de cette exposition-là et dans la continuité, nous proposons le 16 avril, donc demain à 18h, une conférence projection qui permet de revenir sur cette histoire pour essayer de mieux la comprendre et surtout de voir comment on peut écrire son histoire. Donc l'idée, c'est de montrer quelles sont les sources qui sont disponibles pour retracer le parcours de ces réfugiés républicains espagnols qui sont passés par plusieurs étapes. Un grand nombre d'entre eux sont passés par les camps de Risalte et d'Argelès. Plusieurs témoignages, hein, sur les panneaux le montrent. Ils montrent également que certaines personnes étaient arrivées ici dans le département et avaient nouvelles de membres de leur famille qui étaient encore soit à Argelès, soit à Risalte. Donc il s'agit de montrer quels sont les documents qui ont été produits et comment on peut les utiliser. Et là, effectivement, plusieurs départements du Sud-Ouest ont fait un gros travail, notamment de numérisation et de mise en base de données, pour pouvoir retrouver plus facilement ces données. Donc il s'agira de présenter ça. Ce sera présenté par une collègue qui est directrice des archives départementales du Lot, mais qui, en 2019, en tant que directrice des archives départementales de l'Aude, avait mené cette opération. Ça, c'est effectivement ce qui s'est passé dans le Sud-Ouest. On revient en Ille-et-Vilaine et on montre quels sont les documents que l'on conserve ici. Ils sont très nombreux sur l'arrivée et le parcours de ces réfugiés républicains. Et là, c'est toute la typologie des documents qui va être présentée et on s'attachera à reconstituer le parcours de certains d'entre eux. Et en montrant toutes les étapes, en montrant les documents que l'on a sur la vie dans le camp de Verdun, en montrant ce que la presse dit à l'époque de l'arrivée de ces réfugiés espagnols, les mouvements de solidarité comme les mouvements évidemment de méfiance face à l'arrivée de ces populations. On a des traces assez nombreuses de ce passage des réfugiés républicains espagnols, dont certains sont restés dans le département et dont d'autres sont partis. Là, l'un des exemples que l'on va mettre en avant, la personne effectivement est partie au Venezuela après être arrivée à Rennes. Et c'est vrai que beaucoup de réfugiés républicains partent vers l'Amérique centrale ou du Sud. Et donc, suite à cette présentation, pour élargir, on va dire, le propos, il y aura une présentation de l'Encyclopédie des migrants, qui est un dispositif artistique composé de plus de 400 lettres écrites par des migrants qui habitent aujourd'hui dans des villes de la façade atlantique, au sens large, de Brest à Gibraltar, et qui ont décrit leur expérience en tant que migrants. Donc il s'agit de mettre en regard cette migration qui a été subie, hein, cet exil, hein, des réfugiés républicains et espagnols, et ce que c'est que d'être migrant aujourd'hui, pour prolonger et pour élargir la perspective. Suite à cette présentation, on a ensuite la projection d'un film documentaire d'Alain Gallet, « La lettre à Gabriel », qui revient sur l'expérience de Gabriel Garcia, donc, qui est descendant de réfugiés républicains espagnols, et dont l'expérience est décrite via ce film. Alors c'est intéressant parce que Francisco Alucha, c'est le réfugié républicain dont on évoque l'expérience dans la conférence que l'on va faire.
Et qui là signe un document ?
Là en fait, il crée un document à la commission d'aide aux enfants espagnols réfugiés en France, qui est un document en espagnol, et où il décrit effectivement qu'il y a des enfants qui ont perdu leurs parents, donc à 8 et 11 ans, se trouvent à Argelès-sur-Mer. C'est ce demi-frère et sœur en fait. Ça fait que ces deux personnes-là, il ne peut pas les faire venir parce qu'ils n'ont pas de quoi finalement les entretenir, qu'ils ne retournent pas en Espagne, sans pouvoir les prendre à ma charge. C'est pour cette raison que je vais passer. C'est une demande d'assistance. No pasará, no pasará, no
pasará, no pasará. Mémoire de la Seconde Guerre mondiale, ce sera également une projection sur Rennes pendant la guerre, un enjeu stratégique pour Pétain et De Gaulle. Ça, c'est le 22 mai à 18h. Une table ronde sera aussi consacrée à la résistance en Ille-et-Vilaine le 6 juin à 18h. Enfin, la série documentaire 100 jours en été d'Antoine Martin sera à retrouver en ligne entre juin et août, 90 épisodes de 3 minutes pour découvrir l'une des plus terribles batailles de la Seconde Guerre mondiale du 2 juin au 30 août 1944.
Todo lindo día.
Lugar par Lau Ro sur Canal B. C'était une nouveauté musicale repérée par Yann Barbotin, notre programmateur ici à la radio. Et ce titre, il est extrait d'un album Cabana qui est attendu pour le mois de mai sur le label Far Out Recordings. Ce sera le premier disque pour ce musicien brésilien non binaire qui a émigré vers l'Europe avec sa famille. Il vit désormais à Brighton et vous venez donc de l'entendre dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B qui se poursuit avec une interview dans le prolongement du reportage que vous avez entendu en début d'émission sur l'exposition Stratégie de l'effacement. On reçoit maintenant le personnage qui est au cœur d'un documentaire projeté mardi sur le thème Parcours de réfugiés espagnols.
On m'a raconté qu'un soir à Saint-Malo, au retour du travail, mon père posa son vélo contre le mur de la maison et se dirigea à grands pas vers la chambre où ma mère venait d'accoucher. Penché au-dessus de mon berceau, il approcha son visage du mien et me susurra à l'oreille « Rosita ». Le prénom fut aussitôt rejeté par ma mère, puis ma grand-mère. Trop étranger pour l'une, pas assez chrétien pour l'autre. On m'attribua alors le nom de ma mère, Gabrielle. Mais il était trop tard. Mon berceau a le parfum vert de Rosita. Et cela, mon père l'avait compris. Il avait, lorsqu'il me regardait, cette expression tragique où perçait une tendresse mêlée de fierté. « Ritana, gitane », me lançait-il parfois. Il savait que je n'avais pas échappé à Grenade. Craignait-il que j'y retourne pour lui ou au contraire, l'espérait-il ?
Bonjour Gabrielle Garcia.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes rennaise, autrice et puis le personnage principal d'un film documentaire qui est à voir mardi 16 avril aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine. La projection, elle commence à 19h45 pour ce film qui s'appelle « Lettre à Gabrielle ». Ça a été réalisé par Alain Gallet en 2013. Avant ça, vous aviez déjà raconté votre histoire dans un livre qui en fait a servi de fil conducteur à la construction de ce documentaire pour entrer dans Grenade. C'est un livre sorti en 2005.
Non, ce n'est pas 2005. Pour entrer à Grenade a été publié en 2012. En 2005, j'ai publié avec Isabelle Matas, un premier livre qui est un livre de témoignages. La mémoire retrouvée des républicains espagnols. Pour entrer dans Grenade est un livre personnel, donc qui se situe entre mémoire et histoire.
Ce livre, il raconte votre histoire, l'histoire donc d'une fille de républicain espagnol, de soldat de la République, exilée en France en 1939. Comment d'abord vous a été transmise cette histoire avec des silences ?
Oui, cette histoire m'a été transmise effectivement avec des silences, mais aussi avec des mots, un mot TS, avec des mots très forts. Ils sont passés directement de mon père, soldat de la République, à moi. Ce qui veut dire que j'étais comme nous avait défini l'historien Francisco Espinosa Maestre, la mémoire vivante de la République espagnole, qui est partie pour une grande partie en exil.
Hein ? Il vous a transmis cette histoire jeune ou une fois devenu adulte ?
Il m'a transmis cette histoire très jeune. Parfois, il me disait « tu dois savoir », mais il ne voulait pas m'imposer. Si vous voulez, il me donnait les titres de son histoire, d'éléments importants de son histoire qui continuaient de le hanter. Lui, républicain espagnol, soldat de la République, combattant, il me donnait les grands titres. C'était à moi de vouloir plus tard compléter l'article, compléter le chapitre. J'ai fait le choix de le faire.
Et pour le faire, vous êtes allée dès très jeune plusieurs fois en Espagne.
Je suis partie à la fin des années 60 parce que en Espagne pour voir ma famille. Là, j'ai pris conscience de façon assez brutale qu'il existait deux Espagnes, l'Espagne des vainqueurs et l'Espagne des vaincus. Et l'Espagne des vaincus, celle de dans laquelle faisait partie ma famille, vivait encore, avait vécu dans des grottes. Près de Grenade.
Oui, ça c'est peut-être pas connu comme histoire.
Non, ce n'est pas connu. L'humiliation de des vaincus de la guerre d'Espagne, l'humiliation, l'extrême misère dans laquelle on les a laissés pendant des décennies de franquisme, puis la terreur aussi qui a suivi la guerre. La guerre ne s'est pas terminée en 1939 pour Franco. La guerre s'est poursuivie contre cette République espagnole. Le but, c'était d'exterminer la République jusqu'au dernier républicain espagnol. Donc j'ai connu, j'ai vu, j'ai réalisé et j'ai voulu et j'étais partie prenante de cette histoire.
Vous êtes partie en Espagne un peu pour compléter des fragments de votre histoire familiale, donc à la recherche de réponses. Pour vous, que produisent les silences ? Pourquoi est-ce qu'il faut aller se renseigner sur qui on est ?
Pourquoi il faut aller se renseigner ? Moi, je ne pouvais pas passer outre. J'ai voulu, très jeune, savoir. Mais à l'époque, je ne pensais pas. Plus tard, même si j'en ai toujours eu la volonté d'écrire ce premier voyage en Espagne, mais je voulais savoir pour ensuite, et j'ai réalisé, faire savoir. Maintenant, c'est par devoir que je l'ai fait. En 2001, lorsque je me suis associée avec les associations espagnoles et les historiens espagnols pour reconstruire cette mémoire républicaine qui a été ensevelie pendant des décennies de franquisme et qui n'a pas été réhabilitée lors de la transition démocratique. Donc j'ai voulu participer à cette reconstruction. Mais dès la fin des années 60, moi j'ai voulu savoir, j'ai voulu connaître ma famille parce que c'était ma famille. Les photos m'arrivaient en noir et blanc. Donc cette Espagne-là, elle est en moi.
Vous êtes allé interroger les paysages où avait vécu votre père et qu'il a donc dû quitter dans la région de Grenade. Ça a donc donné le titre à cet ouvrage Pour entrer dans Grenade qui est sorti en 2012. Vous êtes allé sur des lieux qui ont forcément marqué votre père. Comment a-t-il perçu votre démarche ?
Alors, lorsque je suis allée fin des années 60, je n'ai pas interrogé. J'étais encore très jeune. J'étais une adolescente, j'étais une toute jeune lycéenne. Je n'ai pas interrogé. J'ai voulu connaître ses deux sœurs qui étaient restées en Espagne. Et je les interrogeais, mais elles ne parlaient pas. Elles parlaient très peu, comme beaucoup de vaincus de la guerre d'Espagne. Les années de terreur, il y a eu une mer de terreur suivie d'une mer de silence. Donc, elles parlaient peu. Comment a-t-il perçu ça ? Je n'en sais rien. Je sais qu'il était heureux que j'aille là-bas pour lui parce qu'il n'est jamais retourné. Ses sœurs m'ont vu comme le frère revenant en Espagne. Il n'est jamais retourné en Espagne. Maintenant, la deuxième, je suis retournée plusieurs fois. Et lorsque j'ai voulu écrire, lorsque j'ai su, j'ai commencé à faire mon enquête mémorielle, eh bien, je lui dis, je vais retourner là-bas. Et là, évidemment, mon père était décédé et j'ai découvert d'abord l'âme de la Vega de Grenade, l'âme de ces journaliers, pourquoi ils avaient lutté pour les valeurs de la République, pourquoi. Ça, c'était très intéressant pour moi. Mais c'est chose étrange, ou du moins peut-être que c'est juste, mais lorsque j'étais allée 40 ans plus tôt, j'avais retenu des lieux que ma tante me donnait là. Là. Elle me disait quelques noms. Je les ai retenus. J'ai voulu les retenir. Lorsque 40 ans plus tard, je repars là-bas, tout d'un coup, les langues se délient. Et les personnes me disent, mais oui, c'est vrai. Telle jeune fille a été violée et tuée au château de Lachar. Oui, ces deux sœurs-là, bien sûr, elles habitaient près de la maison, près de chez ta grand-mère. Donc, c'est une mémoire qui m'a été transmise de lui à moi très jeune, que j'ai voulu écouter. J'ai fait ce choix de l'entendre, mais qui m'a été transmise très jeune et qui est restée en moi.
La guerre d'Espagne, elle a débuté, il faut le redire, en 1936. Et donc votre père, il a fait partie de ceux qui, nombreux, ont quitté l'Espagne au début de l'année 1939 dans un mouvement d'exode d'ampleur pour traverser la frontière en fait par les Pyrénées, donc arriver en France. On donne un peu des éléments sur le parcours de votre père, une histoire qui, je pense, est méconnue d'une partie des Français, mais aussi des Espagnols.
Oh, oui, actuellement, les Espagnols s'intéressent à ce volet de l'exil républicain espagnol en France. Oui, on s'intéresse maintenant parce qu'on a travaillé, on a commencé ce travail. J'ai publié en Espagne en 2015 Plaza de los Republicanos Españoles. Et ils ne connaissaient pas, effectivement, beaucoup ignoraient. J'ai présenté ce livre à Fuente Vaqueros, qui est le berceau de mon père, de ma famille. Il m'a fallu une carte de France pour montrer déjà où se trouvait la Bretagne. Et lorsqu'ils ont découvert que ces républicains espagnols, ces soldats de la République, non seulement ont été traités, non pas comme des combattants de la République, mais comme des prisonniers dans les camps de concentration du sud de la France, mais qu'ils ont ensuite été livrés par le gouvernement de Vichy aux nazis. Ils ont été cédés, livrés aux nazis, pour travailler sur leur mur de l'Atlantique. Ce n'étaient pas des STO. Ils sont arrivés dès le printemps 1941, comme travailleurs forcés. Et c'est pourquoi on va trouver beaucoup de ces Espagnols à Lorient, à Brest et ensuite à Saint-Malo, qui était une plaque tournante vers les îles anglo-normandes où mon père s'est retrouvé avec de nombreux autres combattants. Ça, c'est ignoré.
À travailler sur ce projet de mur de l'Atlantique dont il reste des vestiges tout le long de la côte.
Plus que des vestiges, je suis montée en 2012, je suis allée à Brest parce que j'ai grandi avec ces républicains espagnols à Saint-Malo. Je les ai interviewés quand j'ai voulu faire mon enquête mémorielle. Et vous savez, ils tenaient vraiment à ce que cette histoire soit sue. Et je leur ai promis que j'irais jusque Brest. Et il s'avère que là-bas, avec des enfants de ces soldats de la République travailleurs forcés, on a créé une association mémorielle, Mère 29. On a demandé à ce que soit mise une plaque sur l'ancienne base de sous-marins construite par ces Espagnols. La marine nous a accordé cette plaque et c'est plus que des vestiges, mais tous les ans, on va là-bas et on commémore et on rend hommage à ces hommes. Il n'y avait pas que des républicains espagnols. Il y avait des juifs français, il y avait des communistes, il y avait des tous ceux qui avaient combattu, qui combattaient le nazisme.
Et donc entre 1941 et 1944, ils étaient plusieurs dizaines de milliers d'Espagnols, entre autres, réquisitionnés par l'occupant nazi, notamment pour travailler sur ce mur de l'Atlantique. Avec cette histoire familiale, vous êtes allé chercher, après la publication de votre livre, vous êtes allé chercher un réalisateur, Alain Gallet, pour faire de cette histoire un film qui s'appelle La lettre à Gabriel. Il avait été présenté au festival Étonnant Voyageur, c'était il y a une dizaine d'années, il y a 10 ans. Une façon donc de mettre en lumière un pan de histoire méconnue finalement de nombreux Bretons, c'est aussi notre histoire à nous parce qu'ils sont restés, beaucoup de ces Espagnols.
Oui, c'est notre histoire, j'ai dit notre histoire à nous parce que beaucoup de ces Espagnols étaient des jeunes célibataires et beaucoup se sont mariés avec des Bretonnes d'ailleurs. C'est ce qui fait un peu la différence avec les Espagnols que j'ai rencontrés à Rennes qui sont venus avec leurs femmes, qui ont créé une famille, qui ont recréé une communauté espagnole. Nous, nos pères, c'est comme un double exil à l'intérieur de la famille. Ils étaient mariés à des Bretonnes. Donc c'est notre histoire aussi, bien sûr.
Dans le film, il y a d'autres témoins à qui le micro est tendu, un historien et puis des artistes aussi installés en Bretagne.
L'artiste peintre Mariano Otero, je lui dois beaucoup. Il m'a, lorsque je lui ai parlé de ce projet, d'abord un premier projet de livre avec Isabelle Matas en 2005, il m'a dit d'accord, ok, je peux t'aider, je peux te donner la liste de personnes, de ces soldats de la République qu'il côtoyait, qui étaient ses frères. Il m'a donné cette liste, je suis allée les interviewer, j'ai complété avec ceux que je connaissais moi personnellement à Saint-Malo. Bien sûr, Mariano Otero, il a le mot juste, il a le mot... J'ai dit là, il est décédé, il avait le mot juste, il est d'une rigueur extrême. Et ça, c'était un plus pour cette enquête mémorielle que je menais.
Il faut peut-être expliquer, si on peut, le titre de ce film documentaire, La lettre à Gabriel.
Oui, oui. En réalité, je cherchais depuis longtemps un réalisateur qui aurait pu tourner sur cette présence des soldats de la République en Bretagne, en particulier leur participation dans la résistance, qui a été très importante. Et personne n'était intéressé. Alain Gallet a eu vent, a lu mon livre pour entrer dans Grenade. Il l'a trouvé intéressant et, stupéfaction, il apprend que moi, fille de républicain espagnol, j'ai eu comme professeur un fils de franquiste. Et ce fils de franquiste qui a vu mon premier livre dans une librairie, dans une vitrine d'une librairie à Saint-Malo, l'a acheté, tiens, mais c'est mon ancien élève, pour qu'il n'avait pas de sentiments très positifs, fille de républicain, lui, il avait été éduqué par des parents franquistes. Ceci dit, il n'avait que 3 ans pendant la guerre d'Espagne. Moi, je n'étais pas née. Hein. Donc, il avait été élevé par des parents franquistes, phalangistes. Il voit un livre sur la républicain espagnole. Il l'a lu. Il m'a écrit une lettre et m'a demandé pardon. C'était donc un pardon accordé individuel, hein, de lui à moi. D'abord, parce que lui, contrairement à beaucoup d'Espagnols et de Français, mais d'Espagnols, a lu le livre, a écouté, a lu les mots des républicains espagnols. Et c'est après avoir lu les pages que moi, j'ai accepté ce pardon.
Donc, une histoire qu'on retrouve donc dans le film documentaire Lettre à Gabriel, qui est à voir aux archives départementales mardi 16 avril à partir de 19h45. Un mot avant de terminer sur cet autre ouvrage que vous avez publié plus récemment en 2019. Une petite, peut-être, comment dire, une version augmentée de la démarche que vous menez depuis plusieurs années.
Oui, tout à fait. C'est tout à fait le terme. Augmentée, enrichie. Parce que pendant 15 ans, j'ai continué à mener des enquêtes, et cette fois avec une association mémoriale de Mer 29 et les historiens espagnols que j'ai connus et que je connais, et français également. Cette enquête, bien sûr, est enrichie par tout ce que j'ai appris grâce à ces autres enfants de républicains espagnols, travailleurs forcés, qui étaient dans la résistance et déportés à Dachau, à Bergen-Belsen.
On donne le titre « Résistir, les républicains espagnols en Bretagne, de la retirada à la résistance » et ça a été publié chez Skolvreis. Je vous représente Gabrielle Garcia, vous êtes donc rennaise, autrice de plusieurs ouvrages et le personnage principal de ce film documentaire à voir aux archives départementales demain, mardi 16 avril. Un film réalisé par Alain Gallet en 2013. L'entrée est libre mais sur réservation. Et pour plus d'infos, il y a le site archive.il-e-vilaine.fr. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Marcus Harding avec le titre Old Peel, un morceau que j'ai choisi pour vous, qui est sorti en 2021 sous forme de single dans la foulée de l'album Designer et de la tournée européenne d'Aldous Harding, chanteuse et musicienne néo-zélandaise qui a depuis sorti un nouvel album en 2022. Vous venez de l'entendre sur Canal B dans l'Arène, l'émission d'information locale, une émission qui vous tend son micro si vous avez des actions ou événements à annoncer aux auditeurs, que ce soit avec votre association, un collectif, pourquoi pas une institution, tant que ça s'inscrit dans le champ de l'information locale. On peut parler féminisme, environnement, vie étudiante, vie en milieu rural. N'hésitez pas à m'en informer par email à l'adresse lucie@canalb.fr. Et ensuite, je reprends contact avec vous pour vous proposer une interview ici en studio, un reportage sur le terrain, ou alors on peut aussi en parler sous forme de recommandation du jour. Et c'est l'heure. La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des petits conseils, souvent d'événements à vivre près de chez vous, parfois aussi de quoi nourrir vos envies de lecture, de podcast ou de documentaire. Aujourd'hui, on annonce une rencontre débat qui est co-organisée par le réseau des territoires accueillants d'Ille-et-Vilaine et l'association Accueil Réfugiés Bru. Rendez-vous mardi 16 avril à 20h30 à la Halle Pagnol pour échanger autour du thème suivant. J'ai pas précisé à Bru. Pour échanger autour du thème suivant. Contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Alors que dit la loi Asile et Immigration qui a été adoptée au mois de janvier ? Quelles en sont les conséquences sur l'accueil des personnes exilées ? Des questions qui seront explorées avec une juriste, les premiers concernés, donc des personnes exilées, mais aussi le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, Daniel Salmon qui est sénateur écologiste dans le département, Frédéric Mathieu et Michael Boulou, tous les deux députés, et on retrouvera aussi la Fédération des acteurs de la solidarité Bretagne. Ce rendez-vous, il est ouvert aux citoyens tous concernés par ce sujet, qu'ils soient parents d'élèves, membres de clubs sportifs, adhérents d'associations ou encore élus. Alors que de nombreux secteurs de l'économie, on le redit, seraient dans des situations critiques sans ces personnes exilées, notamment dans les secteurs de la restauration, du bâtiment ou encore du service à la personne. Cet événement-là qu'on vient d'annoncer, vous pouvez le retrouver dans le détail sur le site rta35.fr. C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.